Hey, ce matin, en plus de ça, je dois corriger une erreur parce que j'ai dit des niaiseries la semaine dernière. Ça m'arrive des fois, hein? Quelqu'un, un petit couple qui est venu me voir après le service la semaine dernière puis qui m'a dit « Yannick, je pense que tu as dit quelque chose qui n'est pas biblique. » Ils l'ont fait plus gentiment que ça. Ils sont venus comme... Je sais même pas s'ils sont là ce matin. Mais ils sont venus comme doucement me voir puis ils ont dit « Tu sais, Yannick, c'est parce que tu as dit qu'on ne doit pas chercher le bonheur dans le mariage. » Il y a quand même un verset explicitement dans la Bible qui dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Je pense que ça fait deux fois d'ailleurs que je fais cette erreur-là dans les dernières années. Je pense que j'ai fait la même chose dans les Cantiques des Cantiques. J'y vais de mémoire. Alors, je publie aujourd'hui un erratum. Je me reprends. Je me repens avec le sac et la cendre. J'ai fait une erreur. J'aurais dû prendre un autre terme. J'ai pas pensé à ce terme-là. Vous comprendrez que lorsque je parlais de bonheur dans le sens absolu, celui qu'on doit trouver en Dieu, n'est-ce pas? Et c'est dans ce sens-là que j'utilisais le terme. Puis, écoutez, pour ce petit couple-là, pour encourager la dame, peut-être reprendre le jeune homme, j'ai pas trouvé dans la Bible un seul verset qui dit que celui qui trouve un mari trouve le bonheur, par exemple. Fait que je veux juste te dire, Kat, on prie pour toi. On prie pour toi. Ouais. Bon, c'est correct, je me suis pas vraiment repenti. Merci, vous êtes bien gentil. Tournez avec moi dans Malachie, s'il vous plaît. Quel livre absolument extraordinaire. Puis Dieu place les passages des fois dans nos vies dans des moments super opportuns parce qu'il adresse des choses. Des fois, lorsqu'on jase avec des chrétiens, puis on n'est pas chrétien, on parle avec des chrétiens, on dit « Vous autres, vous êtes bizarres parce que vous avez comme des réponses à tout, puis tu sais, vous doutez jamais, puis tout est simple parce que vous avez une manière de voir les choses, puis tout est clair. » C'est pas vrai, ça. C'est pas vrai, ça. Les chrétiens doutent. Les chrétiens doutent de Dieu. Parfois, les chrétiens doutent de Dieu. Souvent, parfois, parce qu'on vit dans un monde qui est dur. On vit dans un monde qui est lourd. Je viens juste de prier pour une situation super difficile à vivre, puis la foi donne des réponses, mais la foi ne donne pas des réponses dans la douleur. Dans la douleur, il n'y en a pas vraiment de réponse à ce moment-là. Et on regarde toutes sortes de situations dans le monde qui se produisent, puis on peut en venir à douter pourquoi Dieu t'intervient pas. Tu dis dans ta parole clairement que tu es bon, pourquoi tu n'interviens pas? On peut en venir à douter de la présence de Dieu. Certains vont en venir à douter de l'existence de Dieu. Parce que Dieu permet, clairement, beaucoup de mal dans le monde. Dans le passage de ce matin, Israël, le peuple d'Israël, exprime très lourdement des doutes à l'égard de Dieu. Alors, je veux juste introduire très brièvement le fil du texte pour aider à bien suivre la lecture que Stéphane va nous faire de ce passage-là, d'accord? Alors, très brièvement, qu'est-ce qui se passe? Dieu prend la parole à travers son prophète au départ, puis il dit, vous êtes pesant. Vous entendre, c'est lourd. Parce que vous dites que Dieu se plaît dans le mal et Dieu permet le mal. Vous dites, où est-ce que je suis? Et Dieu répond au peuple en disant, très bien, vous dites que je suis absent, je vais venir au milieu de vous, je vais vous visiter. Est-ce qu'il y en aura un seul d'entre vous qui va se tenir debout avec sa droiture et sa justice lorsque moi, le Dieu de justice, je vais venir au milieu de vous? Et à travers ce passage-là, qui est un passage à la fois où Dieu, à travers son prophète, s'adresse au peuple à l'époque, il y a vraiment une portée prophétique super importante dans le passage. Alors, si vous êtes familier avec le Nouveau Testament, vous allez reconnaître un passage où il y a l'annonce de la venue de Jean-Baptiste qui allait précéder le Sauveur, d'accord? Il y a une référence dans ce passage-là. C'est important d'avoir ça à l'esprit pour nous comme chrétiens en écoutant le passage, d'accord? Je vous rappelle le livre de Malachie, dernier livre de l'Ancien Testament, avant 400 ans de silence, avant la venue de Jésus-Christ. Et donc, il y a des questions qui sont posées dans ce livre-là qui ne vont se résoudre que dans la venue de Jésus-Christ. C'est bon? On va écouter la parole de Dieu ensemble.
Alors, le passage de ce matin est tiré de Malachie au chapitre 2. Je vais lire du verset 17, aller jusqu'au chapitre 3, verset 5. Et je vais lire ça dans l'édition, nouvelle édition Genève. Donc, Malachie, chapitre 2, verset 17. Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles, et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué? » C'est en disant, « Quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. » Ou bien, « Où est le Dieu de justice? » Voici, « J'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les purifiera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes de justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Je m'approcherai de vous pour le jugement. Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées.
Merci Stéphane. Alors ce matin, on va voir ensemble que devant la souffrance et le mal, devant le péché dans le monde aussi, on peut être tenté de douter de Dieu. On va voir même qu'il y a une place pour parfois douter à quelque part. Mais Dieu use de patience. Et Dieu nous appelle, nous, pendant ce temps-là, à racheter le temps pour connaître Jésus-Christ avant son retour. Ce matin, on va voir ensemble, je vais juste le répéter, devant la souffrance et le mal, le péché dans le monde, nous pouvons être tentés de douter de Dieu. Mais Dieu use de patience et on est appelé à racheter le temps pour connaître Christ avant son retour. Le mal, l'injustice dans le monde et nos doutes sur Dieu. Regardez bien comment le passage commence au verset 17 du chapitre 2. Des fois, on fait des drôles de découpage. Hein? Probablement que dans vos Bibles, on dirait que 17 est dans la section d'avant, mais vous allez voir que logiquement, ça suit une suite très logique après. « Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. » Et vous dites, « En quoi l'avons-nous fatigué? » Donc, je l'ai dit depuis le début de Malachie, Dieu est dans un débat avec son peuple parce que le peuple se plaint sur Dieu. Et en rendu à un endroit où c'est pas simplement des doutes, c'est du sarcasme, c'est du laisser aller. Et le terme ici est super lourd. Lorsqu'il dit « vous fatiguez l'Éternel », le terme qui est là, c'est le même terme qu'on utilisait pour définir le travail d'un esclave. Le poids qu'un esclave portait sur ses épaules lorsqu'on lui donnait une charge de travail, c'est le même terme que pour « fatiguer » ici. Vous êtes lourd à entendre, Israël, avec vos complaintes contre moi. Et Israël de dire, mais en quoi t'avons-nous fatigué? Mais voici vos reproches que vous adressez à l'Éternel. Vous dites, quiconque fait le mal est bon aux yeux de Dieu, est bon aux yeux de l'Éternel. C'est en lui qu'il prend plaisir. Vous voyez qu'on n'est plus tout à fait au niveau des doutes, hein? On est rendu même ailleurs. Ou bien encore, vous dites, où est le Dieu de justice qui vient faire justice? Alors, il faut se rappeler le contexte pour comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer dans l'esprit du peuple d'Israël. Je vais juste vous rappeler, Israël est un peuple qui avait été choisi par Dieu, qui avait été retiré, libéré de son esclavage en Égypte pour vraiment devenir un peuple, conduit au désert, au mont Sinaï, où Dieu avait fait une alliance avec cette nation-là, qui devenait vraiment une nation à ce moment-là, le conduit dans la terre promise où ils vont avoir leur territoire, vont régner là. Éventuellement, il y a même des rois qui vont régner. Ces rois-là étaient appelés à régner suivant la loi de Dieu. Israël devait être une lumière pour les nations, une lumière dans le monde où on voyait un territoire. De quoi ça a l'air? Quand un groupe de personnes marche selon dans les voies de Dieu. De quoi ça a l'air un pays, une nation qui marche dans les voies de Dieu, selon Dieu, avec un roi qui marche dans la justice, dans la droiture, dans la vérité? Qu'est-ce que ça va donner? Mais très rapidement dans l'histoire d'Israël, les rois se sont détournés de Dieu. Se sont détournés de Dieu, ont commencé à traiter des alliances avec des royaumes environnants, avec des rois environnants qui adoraient d'autres dieux que l'Éternel, que le Dieu des cieux, des dieux qu'ils s'étaient forgés eux-mêmes, selon les passions de leur cœur, selon les désirs de leur cœur, qui entraînaient aussi la pratique non seulement du péché d'idolâtrie, celui d'adorer un autre dieu que le seul Dieu qui existe dans l'univers, mais aussi d'autres péchés dans leur style de vie, d'autres péchés dans leur éthique, dans leur moralité. Toutes sortes de pratiques idolâtres qui étaient encore abominables aux yeux de Dieu en plus de l'idolâtrie. Et donc, Israël s'est rapidement détourné roi après roi. Très peu de rois en Israël ont été fidèles à Dieu. Et Dieu avait dit, lorsqu'il avait contracté une alliance avec eux au mont Sinaï, « Je serai votre protecteur, je serai votre bénédiction, je serai avec vous dans la mesure où vous marcherez avec moi. Parfois, vous pécherez. » Vous vous repentirez, vous irez au temple. Il y avait toute une procédure qui était là parce que même si on veut marcher avec Dieu, on ne le fait pas parfaitement. Mais ce n'est pas de ça dont on parle. Il dit non, si au contraire, comme peuple, comme nation, vous vous détournez de mes voies, vous décidez de traiter d'alliance avec d'autres peuples. Dieu est allé plus loin que ça. Il disait, vous le ferez. Vous le ferez. Et quand vous allez le faire, je vais me retirer de vous. Je vais vous retirer ma protection. Petite nation, qui était vraiment une petite nation encore à l'époque, je vais vous retirer ma protection et rapidement, vous allez être supplantés par des nations environnantes. C'est ce qui s'est passé en Israël. C'est l'histoire, ce sont les faits historiques de l'histoire d'Israël. Israël a été déporté tour à tour, territoire par territoire, avec des plus grandes nations qui les ont conquises. Et lorsqu'on arrive dans le livre de Malachie, ça fait environ 80 ans que Dieu, selon ses prophéties, selon ses promesses, Dieu avait promis qu'après 70 ans, il procéderait à un retour de l'exil. Il avait promis qu'un reste d'Israël reviendrait d'exil pour revenir dans la terre promise. Et c'est là qu'on retrouve ce peuple-là. C'est important d'avoir ce contexte-là, d'accord? Parce que lorsqu'ils reviennent, ils sont un très petit nombre. On pense autour de 50 000 personnes environ qui reviennent pour rebâtir à Jérusalem premièrement, d'accord? Et donc, lorsqu'ils reviennent, ils reviennent avec la bénédiction de l'Empire, mais ils sont encore sous un empire ennemi qui renvoyait plusieurs peuples dans leur territoire. C'était une manière de gouverner à l'époque et Dieu s'est servi de ça pour ramener Israël. Israël revient, contexte super défavorable, reconstruction du temple, ça va être un tout petit temple comparé à celui que Salomon avait construit, reconstruction des murs, il y a des gens qui occupaient le territoire, c'est super difficile. L'économie est pourrie, Israël est découragé et donc Israël recommence à contracter des alliances par le mariage, on a parlé la semaine dernière, avec des peuples environnants, ça entraîne toutes sortes de choses. Et donc, c'est vraiment n'importe quoi en Israël. On n'a pas un règne d'un roi qui est là pour faire respecter la loi de Dieu avec une justice sociale qui reflète les commandements de l'Ancien Testament. Ce n'est pas la réalité. Et donc, oui, il y a énormément d'injustices qui règnent parce qu'on n'a pas, en théologie, on va appeler ça une théocratie. Une théocratie, c'est lorsque la loi de Dieu va aussi être imposée sur un territoire. Et donc, Dieu et sa loi n'est pas imposée sur tout Israël. C'est n'importe quoi le retour, c'est difficile. Il n'y a pas un roi croyant qui veut marcher dans les voies de Dieu, qui fait respecter la loi de Dieu. Beaucoup d'injustices. C'est au plus fort la poche constamment, beaucoup d'abus. Les prêtres eux-mêmes se marient avec des femmes qui adorent d'autres dieux, certains prêtres. Donc, il n'y a pas l'ordre qu'il devait y avoir selon les promesses de Dieu. C'est un pays qui a été brisé par la rébellion initiale d'Israël. Et lorsque le peuple d'Israël revient, ils reviennent avec l'idée des promesses que Dieu a données. « Je vais vous reconstruire, je vais vous rebâtir. » Avec le souvenir chez les plus vieux du temps où, quand même, il y avait un règne en Israël. Israël avait une certaine puissance militaire, économique, où on avait certaines lois qui étaient observées. Et les anciens et les aînés reviennent avec l'espoir de retrouver cette gloire-là, et même plus que ça, la gloire qui avait été promise lorsque l'Alliance avait été traitée, la gloire sous David, vraiment le pays qui vivait dans la paix sous Salomon, d'accord? Et donc, c'est ça qu'ils attendent. C'est pas ce qu'ils retrouvent. C'est beaucoup plus dur que ça. Puis Dieu leur avait promis de les restaurer. Alors, un paquet de doutes s'installe. On a intitulé la série « La certitude de l'amour de Dieu ». Parce que le début du livre de Malachie commence avec cette idée que le peuple d'Israël doute de l'amour de Dieu. Et tout le long du livre, Dieu revient avec cette question-là. Pourquoi vous doutez de mon amour? Et le peuple est rendu à un endroit où, dans ses doutes, il est devenu cynique, il est devenu sarcastique. Est-ce qu'un croyant a le droit de douter de l'amour de Dieu? Je vais aller rapidement sur ça, mais est-ce qu'un croyant a le droit de douter de l'amour de Dieu? Je voulais un passage dans Malachie, d'accord? Simplement pour nous aider à... Pas Malachie dans Habacuc, je m'excuse. Habacuc, un autre petit prophète, je pourrais aller dans les psaumes, je pourrais aller dans l'Apocalypse, d'accord, où on trouve des passages qui sont à peu près dans le même ton. Voici ce que Habacuc dit au début de son livre. « Jusqu'à quand, ô Éternel? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence. » J'ai dénoncé la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Il y a des doutes là-dedans. Il y a tout un argument avec Dieu. C'est comme... pas simple, pensez au livre de Job, pensez au psaume 73. Dieu, le psalmiste entre il observe ce qui se passe, puis il dit, mais on dirait que les méchants règnent, on dirait que les crooks sont en train de l'emporter. C'est quoi qui se passe? Où est-ce que t'es, Seigneur? Et Job, dans l'épreuve, Seigneur, je t'aime. Tu sais que je t'aime. Pourquoi tant d'épreuves dans ma vie? Il y a des gens qui ne marchent pas avec toi. Pourquoi? Pourquoi ce n'est pas eux que tu vas éprouver? Pourquoi tu m'éprouves moi, Seigneur? Et donc, il y a définitivement une place dans la parole de Dieu pour poser des questions à Dieu. Si vous doutez de ça, je vous encourage à aller à la croix. Une des dernières paroles de Christ, c'est quoi? Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus-Christ, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y avait toutes les réponses. Pourquoi il pose cette question-là? Parce qu'il est homme et dans son expérience, il sait qu'est-ce qui l'attend. Il va être abandonné de son père, il va être fait pécher à notre place. Mais dans son humanité, cette souffrance-là qui est devant lui est insupportable. Et donc, il y a de l'espace dans les Écritures pour être scandalisé par le mal. On vit sur une terre maudite, on porte la mort dans notre ADN, et le mal règne sur la terre. C'est ça la vérité, c'est qu'à plein d'endroits, le mal règne sur la terre. Et c'est justifié qu'à l'intérieur de nous, il y ait un côté de nous qui soit scandalisé par ça. Et ça va se passer de différentes manières, en lisant les journaux, en suivant l'actualité. Des fois, ça va venir nous rejoindre près de nous, puis ça nous fait violence à l'intérieur. On dit, Dieu, je te connais, c'est pas ça que je connais de toi. Pourquoi tout ça, Seigneur? Et il y a une place pour ça. Ça veut dire que lorsque des gens souffrent comme ça, lorsque des gens souffrent des choses où ils sont impactés par la justice, impactés par la violence de ce monde. La dernière chose que tu veux faire, c'est aller voir quelqu'un et dire, juste en passant, je te rappelle un passage, Dieu ne permettra jamais une épreuve au-delà de tes forces. Pas ça que tu veux dire quand la personne est en train de souffrir. Tu fermes ta boîte, puis tu pleures avec lui. C'est ça que tu fais. Est-ce que c'est clair? Tu pleures avec lui. Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de larmes à verser, tu pleures avec lui. Ne commence pas à faire l'enseignant. Tu enseigneras quand tu passeras par la même place. Tu pleures avec lui. Parce que les psaumes sont remplis de ça. D'accord? Il y a un temps pour pleurer et ne pas donner de réponse. Parce qu'à travers ma présence auprès de la personne qui souffre, qui est troublée par le mal dans le monde, par des choses qui semblent tellement injustes, ma simple présence, ma compassion est la manifestation de l'amour de Dieu. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Ma simple présence pour pleurer avec eux. Ah, puis ils vont poser les questions, mais pourquoi? Ils ne sont pas prêts à entendre les réponses. ne sont pas prêts à entendre. Va-t'en pas là. C'est pas un vrai pourquoi. Ma femme, elle me dirait, arrête, entends derrière les mots ce que je suis en train de dire pour de vrai. Je souffre, c'est ça qui se passe. Il y a un temps pour pleurer. C'est là partout dans les Écritures. Soyez pas les mauvais amis de Job qui arrivent et qui pensent qu'ils peuvent tout régler avec un tableau, une crêpe et des réponses bibliques. Vous savez, lorsque Jésus anticipait la croix, puis il a demandé à ses disciples de venir prier avec lui, il n'a pas dit à ses disciples, « Vous savez quoi, ma souffrance est tellement grande qu'il y a des choses que je sais qui sont vraies, puis je vais les remettre en question. Alors j'aurais besoin que vous me lisiez un peu des passages de la Bible pour mettre de l'ordre dans mes idées. » C'est pas ça que le Christ a demandé. Il a dit, « Venez prier avec moi. Venez pleurer avec moi parce que je souffre. Je connais Dieu. » Mais là, je souffre. Et il y a un temps pour ça. Mais ce qui se passe ici en Israël dépasse ça de loin. On n'est plus au même endroit. On est rendu tellement plus loin que ça. On est rendu à un endroit où il y a une espèce de conviction qui s'est installée dans leur cœur. Dieu se fout de la justice. Dieu n'est pas là parce qu'il ne m'a pas fait justice. Dieu en a rien à cirer. Les promesses de Dieu, c'est pas vrai. Ça ne se tient pas. Et bien des gens qui ne sont pas chrétiens, c'est leur argument par rapport à Dieu. Si Dieu existait, il ne permettrait pas tout ça dans le monde. Et donc, c'est un motif, c'est une raison valable selon leur esprit pour rejeter complètement Dieu. Si ça s'arrêtait là, ce serait une chose. Mais généralement, ça va plus loin que ça, et c'est ce qui se passe en Israël. Ça devient aussi une justification pour commettre eux-mêmes l'injustice. Puisqu'il n'y a pas de Dieu, puisque Dieu se fout de la justice, il est là, il n'en a rien à cirer, il nous a abandonnés, je vais me livrer à ça. Et maintenant, je suis justifié non seulement de douter de Dieu, mais je suis justifié de faire le mal. Et c'est ce qui se passait en Israël. C'est ce qui se passait en Israël. Et si vous voyez quelqu'un qui est en train de s'éloigner de la foi puis qui vient dans ses doutes, à un certain moment donné, ça se peut qu'il devienne cynique. Le cynisme est une racine d'amertume qui est en train de s'installer dans son cœur, qui peut l'entraîner loin dans le péché. Parce que là, on est rendu ailleurs complètement et c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce que ça signifie pour autant que Dieu est injuste et que Dieu a abandonné les hommes? La réponse de Dieu, c'est « Vous me fatiguez. » Vous me fatiguez avec vos doutes sur ma justice puis ma présence comme si je vous avais abandonné alors que je viens de vous ramener ici en Israël. Vous avez la mémoire courte. Vous ne vous rappelez pas pourquoi vous avez été déporté. Vous ne vous rappelez pas tous vos péchés. Vous n'avez pas appris des péchés de vos pères. Vous êtes lourd, Israël, de vos complaintes en prétendant que moi, je ne suis pas juste. Vous voulez connaître ma justice? Je vais venir au milieu de vous. Je vais venir au milieu de vous. Et la réponse de Dieu, c'est vraiment ça. Le Dieu de justice viendra exercer sa justice. Dieu n'est ni injuste actuellement. Actuellement, en 2016, Dieu n'est ni injuste ni absent. Le passage dans Malachie me dit que Dieu est témoin. Notez ceci. Comprenez ça, c'est super important. Le passage dans Malachie me dit que Dieu est ni absent ni injuste. Il est témoin. John Piper, je l'ai déjà cité à quelques reprises, avait cette image-là superbe. Il disait à la question, lorsque les gens me demandent « Où est ton Dieu? Où est-ce qu'il est? » Ce Dieu de justice. Il dit « Il est au ciel, il est en train de prendre des notes et il est en train d'amonceler une montagne de colère et de justice parce que sa justice va venir sur tous les hommes. » C'est la réponse de Dieu dans Malachie. Vous dites que je suis injuste. Je suis témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'aimes? C'est ça qu'il avait dit hein, la semaine dernière, c'est ça qu'on a vu. Je suis témoin de l'adultère. Je suis témoin de celui qui traite mal la veuve et l'orphelin. Je suis témoin de celui qui pense que son argent est juste pour son bonheur au lieu d'être généreux. Je suis témoin de ce que vous faites lorsque vous promenez sur le web. Je suis témoin. Je suis témoin. Je suis témoin. Je suis pas absent. Je suis pas injuste. Je suis témoin. Et Dieu dit, dans Malachie 3, versets 2 et 3, « Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, les descendants. Il épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Dieu est présent et il observe et il est témoin. Et dans le passage qui suit, Dieu nous dit qu'il va faire deux choses. Il va purifier son peuple et il va juger le mal. Deux choses. Purifier son peuple, juger le mal. Je commence par la deuxième partie, d'accord? Dieu nous dit, dans ce passage-là, qu'il va venir un moment où il va venir au milieu de son peuple et il va juger le mal. Et dans le fond, Dieu est en train de mettre au défi, il est en train d'avertir Israël. Vous dites que je suis injuste. Vous dites que vous voulez la justice. Êtes-vous prêt à ce que la justice se fasse? Êtes-vous certain, vous, d'être prêt à ce que la justice se fasse au milieu de mon peuple? Est-ce que vous êtes prêt à ce que je vienne visiter mon peuple? Examinez vos cœurs, préparez-vous, repentez-vous. Parce que je vais venir visiter mon peuple et je vais venir juger. Au verset 5, il dit, « Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner. » Voyez-vous, dans les Écritures, constamment, il nous est dit que Dieu sera à la fois juge et témoin. Il va faire à la fois, il va être à la barre de l'accusation du procureur, il va déposer les preuves et il va administrer la justice. Constamment, on trouve ça dans les Écritures. « Je me hâterai de témoigner contre les enchanteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire d'un employé, du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas. » Israël devait être une nation où on voit les valeurs de Dieu vécues, véhiculées constamment. C'est ça qu'Israël devait servir. Ça devait être une terre où les gens, les étrangers, les nations étrangères savaient que lorsqu'un étranger va vivre là, un immigrant arrive, il n'y a pas de ressources, il va être accueilli, on va lui faire de la place. Il vient adorer Dieu, il vient bâtir ce pays avec nous, on va lui faire de la place. On est sensible aux gens qui sont dans le besoin. Mes richesses sont des richesses qui sont pour moi, mais pour partager, pour honorer, pour prendre soin de mon prochain. Lorsque je fais alliance avec la femme de ma jeunesse, je vais être fidèle à cette femme-là, je vais l'aimer. Je vais prendre soin d'elle, je vais être là pour elle. Lorsque je donne ma parole vaut quelque chose. On n'est pas des menteurs, on n'est pas des fourbes. Et on ne va pas s'adonner à toutes sortes de pratiques occultes. Et lorsque je lisais cette liste-là de péchés, puis je ne vais pas m'étendre sur ça ce matin, mais lorsque je lisais la liste, c'était surprenant. Vous prendrez le temps cette semaine de prendre la liste et simplement de vous poser la question suivante. Combien de ces choses-là sont tellement banalisés maintenant que ça relève du domaine du loisir. D'accord? On va faire des pratiques occultes, on va aller se faire tirer aux cartes, on va suivre des choses, on va essayer du spiritisme, on va essayer toutes sortes de religions, et tout ça est rendu très, très, très banal. Ça peut facilement être un loisir. La sexualité ne relève plus d'un univers sacré, beau, qui sert à glorifier Dieu. C'est du domaine de la biologie, du loisir. Tu peux aller au cinéma ou aller sur Tinder pour pouvoir te trouver un partner pour ce soir, puis ça finit là. C'est vraiment du domaine du loisir. On banalise ces choses-là. On leur enlève tout leur tissu moral. Il n'y a plus d'impact éthique relié à ça. On va les traiter comme des phénomènes sociaux. On va les analyser. On va les banaliser. On va leur enlever leur valeur morale. Je comprends celui qui ne connaît pas Dieu qui peut vivre comme ça. Mais pour Israël, voici ce que Dieu leur avait dit dans Lévitique 19:13. Tu n'opprimeras point ton prochain, et tu ne raviras rien par violence, tu ne retiendras point jusqu'au lendemain le salaire du mercenaire, de l'employé. Dieu n'était pas surpris que les nations environnantes fassent un paquet de choses comme ça. Mais Israël, mais un chrétien, tu n'affligeras point dans Exode 22. Tu n'affligeras point la veuve ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Dieu avait prescrit que dans ton budget, si tu es un cultivateur sur tes terres, il y avait une portion que tu devais mettre à l'écart pour les pauvres. Tu devais laisser quelque chose pour les gens qui sont dans le besoin. Ça devait être budgété, cette affaire-là. En passer dans l'Église quand il y a des frères et sœurs qui sont dans le besoin. C'est pour ça que des fois, on émet des mises en garde quand il y a peut-être des gens qui viennent abuser de ça. Alors Dieu jugera avec la justice. Mais il y a aussi dans le passage cette idée que Dieu raffinera, Dieu viendra éprouver son peuple, parce qu'il y a un verset qui est rempli d'espoir au verset 4. « Alors l'offrande de Judas de Jérusalem sera agréable à l'Éternel après avoir été raffinée. » Donc Dieu annonce qu'un jour va venir, où il va venir et il va purifier son peuple. Il va l'éprouver. Et à travers l'épreuve, il va purifier. Et à travers ça, ils vont recommencer à adorer comme autrefois. Ils vont recommencer à offrir un sacrifice qui plaît à l'Éternel véritablement. Parce que Dieu se sent des épreuves pour purifier son peuple. On lit dans Proverbe 17:3, « Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais celui qui éprouve les cœurs. » Pas juste qu'il examine les cœurs, qu'il les met à l'épreuve. Ça fait mal, l'épreuve. Qu'il les met à l'épreuve, c'est l'Éternel. Pierre nous dit dans 1 Pierre 1, 6 à 9, « C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves qui vous arrachent des larmes, de la souffrance. » Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Dieu raffine, éprouve son peuple à travers les épreuves de la vie, à travers la souffrance. Et parfois, ça nous conduit à avoir des doutes. Mais celui qui a été racheté par Dieu porte en lui-même l'espoir. Des fois, on ne l'entend plus, il n'y a comme plus d'écho. La souffrance est tellement lourde dans mes tympans, ça scille tellement fort qu'on dirait qu'il n'y a plus d'espoir. Mais celui qui a connu Dieu, à un moment donné, ça va arrêter de sciller. Mon cœur va ralentir, puis je vais recommencer à entendre les promesses de Dieu, la fidélité de Dieu. Et à travers l'épreuve, Dieu va raffiner, va former, va façonner mon cœur, me préparer pour sa gloire, pour être dans sa gloire. Dieu n'est pas injuste et Dieu n'est pas absent. Dieu est témoin. Dieu est témoin actuellement. C'est vrai que ça demande la foi pour le croire. Qu'est-ce que vous allez croire si ce n'est pas ça? Que Dieu n'existe pas? Qu'on est un amas de molécules? Qu'on n'a pas de créateur? Qu'on est tous des rats sur la terre, des animaux sans âme? Si c'est ça, vous n'avez même pas de raison de pleurer. Vous n'avez pas de raison de pleurer. Tu manges ta prochaine proie, tu digères, puis tu en cherches une autre. Il n'y a pas de morale. Il n'y a pas de morale. Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas absent. Dieu est témoin, c'est ça qu'il dit à Israël. Et je vais venir vous visiter, Israël. Maintenant, regardons ça parce que je ne peux pas saisir la beauté de ce passage-là si je ne saisis pas sa portée prophétique. J'ai dit tout à l'heure au début dans l'introduction qu'il y a vraiment une dimension prophétique qui est super importante. C'est encore plus important pour nous comme chrétiens, d'accord? Pour bien comprendre ce passage-là et épuiser tous les trésors qu'il y a dans le passage. Parce qu'il y a vraiment une dimension prophétique dans le passage. Regardez avec moi le verset 1 du chapitre 3. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur. » Et donc, Malachie annonce ici qu'un jour, Dieu va venir visiter son peuple. Il dit, premièrement, il va y avoir un messager qui va précéder le messager de l'Alliance. D'accord? Il y a deux messagers ici. C'est important de le saisir. Il y a un messager qui prépare la venue de Dieu. Puis ensuite, il y a le messager de l'Alliance. Et ce messager de l'Alliance-là, bien, c'est Dieu. Je vous relis juste le passage. Regardez bien le deuxième messager, c'est super important. « Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. » Et soudain, entrera dans son temple, le Seigneur, Dieu, que vous cherchez, et le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? C'est juste devant Dieu qu'on ne peut pas se tenir debout. Qui restera debout quand il paraîtra? Car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra, purifiera l'argent. Il purifiera les fils d'Élie. C'est Dieu qui vient au milieu de son peuple, purifier son peuple. Or, ce passage-là, qui annonce la venue d'un messager, ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ, les Juifs qui n'ont pas reconnu en Jésus le Messie, l'attendent encore, ou les Juifs ont toutes sortes de messies, hein? Il y a des mouvements à l'intérieur de la nation juive où il va y avoir des sectes chez les Juifs où ils reconnaissent, hop, on a trouvé tel rabbin, c'est lui le Messie. Mais aucun vraiment que les Juifs reconnaissent, sinon les Juifs au départ qui ont reconnu lors de la venue de Jésus que c'était lui. Parce que le Nouveau Testament nous apprend que cette prophétie-là a commencé à se réaliser à la venue de Jésus-Christ. Dans Matthieu 11, versets 9 à 11, on lit ceci. Je m'excuse, juste avant. Dans Matthieu, Dans Matthieu 11, versets 9 à 11. Qu'êtes-vous donc allé voir? C'est Jésus qui parle. Un prophète? Oui, vous dit, j'ai plus qu'un prophète en parlant de Jean-Baptiste. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. » Et ce passage-là, il fait référence à Malachie, fait référence aussi à un autre passage dans Ésaïe, d'accord? « Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Parce que Jean-Baptiste n'a pas connu Christ comme on a pu le connaître après sa mort et sa résurrection. Et donc, on apprend lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament que ce messager qui allait venir préparer la venue du Seigneur, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est venu. C'est tout ce que le Nouveau Testament nous enseigne. Et donc, par conséquent, le Seigneur, le messager de l'Alliance, messager d'une Alliance nouvelle qui vient au milieu de son peuple, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui est venu au milieu de son peuple. Et j'ai pas le temps de m'étirer sur ça, d'accord? Mais si vous étudiez le passage dans Matthieu, vous étudiez Malachie, ne pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ, que Jésus n'est pas simplement un prophète de Dieu, il est Dieu le Fils, c'est vraiment difficile. Les indices sont super forts parce que le langage qui est employé pour ce messager de l'Alliance-là, c'est le langage qui est employé pour Dieu. C'est Dieu qui entre dans son temple, qui s'assoit et qui juge son peuple. C'est Dieu qui vient et qui témoigne contre le mal et qui juge les nations. Donc, ne pas reconnaître la divinité de Jésus-Christ, c'est difficile. Le texte est imbibé de ça complètement. Jean-Baptiste est ce messager qui vient pour annoncer la venue du Seigneur, qui est Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste va dire de Jésus dans Luc 3, 16. Il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Lorsqu'on est dans Malachie, il y a une tension, parce que le peuple d'Israël revient dans son territoire avec l'espoir de pouvoir reconstruire. Dieu leur a promis qu'il va rebâtir cette nation-là et les choses ne se passent pas comme ils l'attendent. Dieu semble pas régner au milieu d'eux comme ils l'attendent. Puis là, dans Malachie, Dieu leur dit, « Je vais venir au milieu de vous. Je vais vous purifier, je vais vous éprouver et vous allez retrouver la gloire d'autrefois. » Puis là, j'arrive dans le Nouveau Testament. Puis là, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que je lis? Je lis, « OK, Jean-Baptiste est ce messager qui annonçait la venue de Jésus. » Donc, si je mets ça ensemble, quand Jésus est venu, ce passage-là de Malachie aurait dû s'accomplir. Et c'est une des raisons qui fait que les Juifs qui suivaient Jésus puis commençaient à se dire, « OK, regardez les miracles qu'il fait, je pense que c'est lui le Messie qu'on attend. Je pense qu'il s'en vient, je pense qu'il va renverser Rome, il va rétablir la nation, il va régner, il va être ici au milieu de nous, il va purifier le peuple. » Il connaissait les prophéties, il connaissait Malachie. Il dit, « Je pense qu'on l'a trouvé le Messie, c'est lui qui va faire ça. On l'attend, il va tout rétablir, il va faire le ménage, on va marcher avec lui, Israël va être glorieux, ça va être génial. » Ce passage-là dans Malachie, porte un mystère à ce moment-là. C'est pour ça qu'on dit souvent, je ne peux pas bien comprendre l'Ancien Testament si je ne saisis pas le Nouveau Testament. La Bible, c'est une révélation progressive qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et plus j'avance dedans, plus les pièces du puzzle se mettent en place parce qu'il y a des mystères qui sont révélés vraiment seulement en Jésus-Christ. Et on apprend en lisant le Nouveau Testament que Jésus vient deux fois. Il est venu une première fois et il va venir une seconde fois à la fin des temps, comme on dit. Au retour de Jésus-Christ, selon il est question, particulièrement dans l'Apocalypse, mais aussi dans les Évangiles. Et une bonne partie de ce qu'on voit ici, du jugement final, où Dieu va venir exercer toute la justice, va se produire simplement à son retour. Parce que lors de sa première venue, Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice et nous offrir la possibilité de se réconcilier avec Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez la tension qu'il y a lorsque le peuple d'Israël dit « Je ne vois pas de justice dans la société. T'es où Dieu? » Si Dieu dit « C'est bon, j'arrive! » Qu'est-ce qu'il fait avec ces gens-là? Il les détruit. Parce qu'ils sont tous aussi coupables que tous les gens qui jugent autour d'eux. Si Dieu vient au milieu d'Israël, ils sont tous coupables, toute la gang. Quand les hommes sur la terre disent « Si ton Dieu existait, il ne laisserait pas ça se produire. » C'est vrai, tu veux la justice, immédiatement tout le monde meurt. Parce qu'on est tous pécheurs, on est tous injustes. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de la première venue de Jésus? On lit dans Jean 3, verset 17, « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Première venue. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. » Et Dieu est en train de dire dans Malachie au peuple d'Israël, « Vous jugez le monde autour de vous, vous jugez l'injustice autour de vous, vous dites que je suis absent à mes gangs d'hypocrites, vous ne réalisez pas que vous êtes tout aussi injustes que toutes les gens que vous jugez. Vous aimez les ténèbres. » Et donc, lorsque Christ est venu dans sa première venue sur le monde, il est venu pour accomplir un sacrifice qui allait rendre possible une nouvelle alliance dans son sang. Jean 9, 39, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas et que ceux qui ne voient point, ne voient point, que ceux qui voient puissent me découvrir. » Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les chrétiens? On voit plein d'injustices dans le monde, puis on dit, « Dieu, t'es où? Jusqu'à quand, Seigneur? Quand est-ce que tu vas arriver? » Je termine avec ça. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, les chrétiens? Dieu est déjà venu juger le monde. Il est déjà venu une fois exercer sa justice. Vous savez où est-ce que ça s'est passé? Sur la croix. Jésus est venu sur la terre, comme on l'a vu, le Seigneur est venu sur la terre dans toute sa pureté. Pas un pécheur, Dieu le Fils. Il a constaté qu'Israël n'était pas plus beau 400 ans plus tard, chasser les vendeurs du temple, condamner les hypocrites religieux. Israël est pareil sous Rome qu'il l'était sous Babylone. Puis il s'est rendu à la croix. Puis à la croix, il a dit, « OK, Père, moi je veux représenter les hommes. Injustes et pécheurs, viens me visiter, toi le Dieu Saint. Viens me visiter. » Et Dieu a déployé sur Christ toute sa justice alors que Jésus portait sur lui nos péchés. Quand Jésus s'est écrié, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » Si Dieu avait répondu, il aurait dit, « Parce qu'en ce moment, je te hais parce que tu es péché à mes yeux. » Toute cette colère que j'ai contre l'injustice et le mal, contre les meurtres, les mensonges, contre les adultères, contre la sorcellerie, contre le vol, contre les abus, c'est sur toi que je la déploie maintenant. Et Dieu a béni ce sacrifice-là. Parce que 3 jours plus tard, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Et Jésus a rendu possible une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance en son sang. Pour nous, chrétiens, lorsqu'on regarde le mal dans le monde, puis on dit, qu'est-ce qui se passe? Où est la justice de Dieu? Nous, on se rappelle de la croix. La justice de Dieu est à la croix, et actuellement, Dieu patiente. Parce qu'au retour de Christ, tous ceux qui ne se seront pas mis à l'abri de la croix, de cette nouvelle alliance-là, seront jugés pour leur propre mérite à eux. Et à ce jeu-là, tous les êtres humains perdent. Les seuls mérites valables, ce sont ceux de Christ à la croix. Alors, lorsque j'ai des amis qui souffrent ou qui regardent le monde et ça ne va pas, j'ai des réponses. On vit sur une terre maudite. La mort est dans notre ADN. Le monde est injuste. Dieu semble absent. Il est déjà venu juger le péché. Il est déjà venu administrer la justice sur son Fils. En faisant ça, il a rendu possible une nouvelle alliance. Il a créé une nouvelle alliance en son Fils. Et à ceux qui croient, ils peuvent entrer dans cette alliance-là. Ce matin, on va prendre le repas du Seigneur. Lorsque je me préparais, j'ai demandé à l'équipe, j'ai dit, laissez-moi diriger le repas du Seigneur pour cette semaine-là, parce qu'on va parler de l'alliance ensemble. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. J'espère que ce matin, le repas du Seigneur qu'on va prendre ensemble va trouver tout son sens à la lumière de ce qu'on vient de voir. On lit dans Luc 22, versets 19 et 20, alors que Jésus prend le repas de la Pâque pour la dernière fois avec ses disciples. La Pâque, qui était vraiment le début de l'alliance avec Moïse. D'accord? Sacrifice de l'agneau pascal, sang versé pour le pardon des péchés, mais qui préfigurait, qui annonçait, c'était juste une annonce qui annonçait le vrai sacrifice, celui de Jésus-Christ lui-même, qui viendrait faire une nouvelle alliance, une alliance nouvelle. Et Jésus dit alors qu'il termine le repas, il prend du pain, il prend du vin, et il partage le pain et le vin avec ses disciples. Et voici ce qu'il leur dit. Eux autres n'ont aucune idée de ce qui se passe, ils ne comprennent rien pantoute. Jésus va se faire crucifier dans quelques heures. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Prenez le pain en vous rappelant de mon sacrifice à la croix. Il prit de même la coupe, et après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Alors, ce vin représentait le sacrifice de son sang à la croix. Lorsque Jésus est venu combler la brèche qu'il y avait entre la fin de Malachie et le début d'une nouvelle alliance. Lorsque Jésus est venu, il s'est offert en sacrifice afin qu'on puisse placer notre foi en lui, pas dans nos mérites à nous, pas que nous on dise « Oh Dieu Saint, viens me visiter, viens m'examiner! » Non, qu'on puisse dire « Je me mets à l'abri de la croix, de la justice de Christ. » Seigneur, là, je peux m'approcher de toi, couvert par le sacrifice de Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Et Dieu a créé à ce moment-là un peuple nouveau. Un peuple nouveau qui allait recevoir son esprit, qui allait porter des fruits, de véritables fruits. C'est pourquoi Paul va dire dans Romains, « Ainsi, frères et sœurs, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un sacrifice raisonnable. Donnez votre temps, donnez vos ressources, donnez votre argent, aidez des gens autour de vous. Soyez généreux, soyez bons. Ça va être un sacrifice de bonne odeur devant Dieu. Votre adoration va vraiment glorifier Dieu. » Comme il disait dans Malachie, « Un jour, je vais purifier mon peuple. Je vais les purifier par le sacrifice de mon Fils. » Je vais me créer un peuple nouveau qui va marcher dans mes voies. Et lorsque nous, on va lire Malachie puis on voit toute l'injustice, ça nous amène à nous examiner nous-mêmes puis à dire, Seigneur, moi qui t'ai connu, Moi qui vis au milieu d'un monde injuste, comment est-ce que je peux vivre autrement, Seigneur? En aimant mon épouse, en utilisant mon argent, en utilisant mon temps. Comment est-ce que je peux faire autrement pour prendre soin de la veuve, de l'orphelin? Comment est-ce qu'on peut être un peuple différent, Seigneur, qui va te glorifier parce qu'on est dans cette nouvelle alliance? Et c'est pour ça qu'en Église, on célèbre le repas du Seigneur à tous les mois. Parce que pour nous, c'est précieux. Ça nous rappelle cette alliance qu'on a traitée avec Dieu. On a dit, Seigneur, par le sacrifice de ton Fils, je veux devenir un enfant de Dieu. Par sa grâce, je veux marcher dans tes voies. Je veux porter ton nom devant les hommes, dans un monde confus et brisé, sur une terre maudite. Je veux être le sel, la lumière de la terre. Les chrétiens, on a le repas du Seigneur, puis on a le baptême. Lorsque une personne croit en Jésus-Christ, elle décide de se faire baptiser. Elle décide de se faire baptiser de son propre chef. C'est pourquoi on baptise des gens qui ont l'âge vraiment de prendre une décision. En faisant ça, il s'identifie avec Jésus-Christ. Il meurt à lui-même, ressuscite en Jésus-Christ. Puis à tous les mois, on prend le repas du Seigneur pour se rappeler que si un jour, je peux être visité par Dieu, ce n'est pas parce que j'aurais dit à Dieu, « Dieu, visite-moi sur la base de ma justice. » C'est parce que je me suis caché derrière la croix de Jésus-Christ. Et je suis entré dans une nouvelle alliance avec Dieu. On va chanter ensemble, on va recevoir les éléments. Je vous invite à méditer au début pendant le chant, puis on va prendre le repas du Seigneur ensemble.